Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Tordeur qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut Manon.
Salut Bart.
Comment vas-tu ?
Bien, je suis contente d'être là avec toi.
Bah ouais, moi aussi, ça fait un petit moment qu'on échangeait et puis on n'a pas pu s'attraper parce qu'on est deux personnes... à la fois déjà très active, mais aussi on aime bien revenir dans notre tanière par moment. Et on s'est loupé quelques fois et je m'en excuse parce que c'est plus de ma faute, c'est à moi de te courir après et pas l'inverse. Donc je suis hyper content d'être là aujourd'hui parce que en plus, en tant qu'ancien triathlète, ancien que pour avoir essayé de monter sur la distance Ironman, ça fait très longtemps que je te suis. Donc j'ai l'impression que j'ai presque une ancienne amie, une ancienne, ta cousine que t'as pas vue depuis longtemps, tu vois, ou ta copine de maternelle que t'as pas vue depuis 10 ans et que tu vois enfin, tu vois. Je ressens un peu ça.
Bah, moi, je suis heureuse de te rencontrer parce que j'écoute beaucoup de tes épisodes du podcast Extraterrien et là, d'être ici parmi les invités, je suis flattée. Ouais, et je suis vraiment contente d'avoir cette discussion avec toi.
Ouais, bah écoute, moi aussi, plaisir partagé, donc je pense que ça va être un super moment. La première question que je pose, c'est un peu la question traditionnelle pour tous les invités, tu la connais, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport.
Bah tu vois, avant qu'on enregistre, tu me disais que ça pouvait être n'importe quoi, et le premier, ça réfère vraiment à ma première, premier souvenir vraiment de sport. En fait, j'en faisais pas vraiment à l'époque. Je sais que j'ai toujours été sensibilisée au sport par mes parents. Mais je me souviens très très bien des JO de 93. J'étais en Suisse en vacances avec mes parents et je regardais à la télé et mes parents m'avaient dit « Regarde les JO et choisis un sport parmi ceux-là ». Et j'avais vu la gymnastique artistique. C'est un souvenir qui m'a beaucoup marqué parce que quand j'ai vu la gymnastique artistique, je me suis dit c'est ça que je veux faire et c'était comme une évidence pour moi. L'après-midi même, je faisais des équilibres, des roues, des sauts dans le jardin et ça a été pour moi vraiment le début de ma carrière sportive. Donc tu vois, qui est très loin du triathlon, des sports d'endurance, on est vraiment plus sur un sport d'explosivité et d'adresse. Mais c'est comme ça que j'ai commencé et c'est vraiment comme ça que je suis tombée dans le bain du sport, quoi.
Ok, t'en as fait combien de temps ?
La gym, j'en ai fait 10 ans, sport-études, 15 heures par semaine. J'étais très investie. Je ne peux pas dire que je faisais partie des meilleures françaises, mais voilà, j'ai été quand même jusqu'au championnat de France. C'est surtout que ça m'a appris tout ce qui m'a permis de me mettre au triathlon professionnel. Après, la gym, c'est un sport très rigoureux, très militaire, malheureusement pas très pédagogique à l'époque, donc peut-être un peu destructeur quand même.
Je crois que ça n'a pas beaucoup changé. Hein.
Ouais, c'est possible. J'espère que ça change, mais je pense quand même que la gym, ça reste une des meilleures écoles de la vie. parce que c'est un sport qui est dangereux, on peut se faire très rapidement mal, donc ça demande en fait d'être rigoureux, d'être très carré, même si je pense que ça m'a affaibli en tant qu'enfant sous certains aspects, ça m'a donné beaucoup de force pour la suite de ce que je voulais entreprendre.
Ok, bah effectivement ça, il y a tellement de discipline, tellement, c'est tellement dur aussi, tu vois, travailler sa souplesse, travailler sa force, que je pense que ça crée un mental vraiment, vraiment exceptionnel, quoi.
Oui, et puis il y a 4 agrès, donc forcément, il faut beaucoup s'entraîner pour garder le même niveau, en fait, sur les 4 agrès. Et en fait, une minute d'inattention, une seconde, une fraction de seconde d'inattention, on peut vite atterrir sur la tête ou se faire vraiment mal. Bah, j'ai entraîné un petit peu sur mes dernières années de pratique, j'ai entraîné des enfants hein, de 4 à 6, 7 ans. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il faut vraiment être strict dans cette discipline parce que c'est dangereux en fait hein, quand on est sur la poutre en équilibre ou la tête en bas quand on est au sol. Les chutes peuvent être un peu graves. Ouais,
ouais clairement. C'est marrant que tu parles de ça parce que tu vois, j'avais interviewé, alors ça remonte il y a 2 ans maintenant, mais Samira Aït-Saïd, tu vois, on est revenu un moment sur sa blessure à Rio. Peut-être bon pour les gens qui ne voient pas le contexte, effectivement, c'est cette image un peu effroyable sur le saut de cheval exactement, où il fait une double vrille, je crois.
J'ai plus la figure en tête.
J'ai plus la figure en tête non plus, et il retombe et le tibia casse en deux littéralement. Et en reparlant avec lui, il me dit, il a senti au moment son pied arriver sur le tremplin, qu'il y avait un petit millimètre d'écart en fait. Il y avait un truc bizarre et il s'est passé quelque chose de bizarre en l'air. Bah, la sortie, on la connaît, elle est malheureuse et ça montre à quel point c'est exigeant, quoi.
Ouais, c'est un sport très, très rigoureux, mais c'est un très très beau sport et je crois que malgré ce que je lui reproche, en tout cas la façon dont c'est enseigné, je pense quand même que ça reste une des meilleures écoles de la vie, autant pour le mental que pour l'aspect physique, parce que quand on a fait de la gym et qu'on a maîtrisé la notion de son corps dans l'espace, on a vraiment une longueur d'avance sur toutes les autres disciplines.
Ouais, je suis d'accord. C'est une vraie intelligence d'avoir son corps en 3D dans l'espace. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu as arrêté, du coup ?
La gym, c'est un sport qui se pratique quand on est plutôt jeune, qu'on est souple, qu'on n'a pas trop de forme. Je parle pour les femmes peut-être plus. Je crois que j'ai arrêté pour cette raison-là, parce que j'arrivais à un moment où je ne progressais plus. Et que maintenant, je l'analyse et je me suis rendu compte qu'en fait, je suis une compétitrice et que je suis quelqu'un qui aime toujours progresser. Donc là, je ne voyais plus trop de progrès à ce que je faisais. Je pense que mon entraîneur avait vraiment lâché l'affaire aussi. Elle était partie sur la génération d'après et que j'avais plus d'intérêt pour elle. Donc le manque d'investissement aussi, ça m'a blessée. Ça a vraiment généré un désintérêt pour la discipline. Pas un manque d'amour, parce que la gym, pour moi, c'est vraiment mon premier amour en sport. Et la troisième chose, c'est que je me transformais physiquement tout simplement et que je voyais bien que c'était plus difficile. Plutôt que régresser, j'ai arrêté. Voilà, j'avais 16 ans, j'étais au lycée et je me suis dit qu'il fallait que je touche à autre chose pour relancer un peu la flamme du sport.
Ok. C'est dingue, tu vois, d'avoir cette conscience de voir le corps qui change et de se dire que ça devient presque pénalisant, tu vois, pour la pratique d'un sport. Je trouve que c'est rare, tu vois, normalement, sur les sports en tout cas que j'ai pratiqué, justement à 16 ans, ton corps se développe, il se transforme, mais avec ton sport, ça devient un atout, quoi. Et là, c'est l'inverse qui se produit, quoi. C'est comme s'il fallait pas grandir, il fallait rester un enfant.
En gym, oui, on les voit, hein, les gabarits. Encore que je trouve que dernièrement, ça a pas mal évolué. Les filles ont un peu plus de poids, elles sont un petit peu plus développées physiquement. Mais
ouais, on voit les Américaines, tu vois, qui sont ultra musclées, notamment.
Ouais, et voilà. Ouais. À l'époque où j'en faisais, on nous demandait quand même d'être très mince. Même si, je suis jamais passée sur la balance ou quoi que ce soit, on n'était pas dans des extrêmes. C'est un sport, en fait, où il faut être petit, tonique. Et ça joue beaucoup, par exemple, sur la colonne vertébrale. Enfin, je sais que mon papa, il fait 1m90. Quand je regarde mes segments, j'aurais dû être beaucoup plus grande, en fait. Et la gym a clairement ralenti ma croissance. Aujourd'hui, je fais 1m69. Mais si je n'avais pas fait de gym, je pense que j'avais quelques centimètres de plus. Donc, c'est un sport qui agit vraiment, véritablement sur la croissance, qui ralentit la croissance. Et vraiment, toutes les filles qui font ce sport-là pendant très longtemps et qui arrivent justement à bloquer un peu ça, continue un peu plus longtemps que 16 ans, parce que 16 ans, finalement, c'est très jeune pour arrêter. Moi, je faisais partie des grands gabarits qui étaient plus... Ouais, je tournais moins bien, en fait. Je tournais en l'air quand la rotation était moins rapide, les mouvements étaient moins rapides. Je pense que c'est ça, en fait, qui a ralenti ma progression.
Ok, ok, ok. Comment est-ce qu'on vient au triathlon, du coup?
Mais c'est drôle.
Les auditeurs ont dû être surpris, je pensais qu'on allait parler triathlon aujourd'hui.
C'est drôle parce qu'en fait, je n'ai aucune idée de comment le triathlon m'est venu. Je ne sais pas comment j'ai pris conscience que le triathlon existait. Ce que je sais, c'est que j'ai arrêté la gym, je suis partie aux États-Unis pendant un an. Alors, je n'étais pas fille au père, j'étais vraiment étudiante en lycée. Là-bas, je me suis dit, bon, bah voilà, je fais un peu de course à pied parce que mes parents sont vraiment dans la course à pied, marathon, ultra-trail, etc. Donc, j'ai vraiment baigné dans ce milieu-là depuis gamine. Tous les week-ends, si je n'étais pas à la gym, j'étais sur les compétitions en train de les encourager. Je suis arrivée aux États-Unis, j'étais donc en famille d'accueil, lycée américain, à 16 ans. Je me dis, bon, bah voilà, il faut que je me trouve des activités sportives parce qu'en fait, c'est ce que j'aime. Et puis, bon, les États-Unis, c'est presque le lieu où il faut être pour pratiquer un sport. Et je me suis mise à apprendre à nager. J'ai fait du Krav Maga aussi.
Ok.
Ouais, j'ai adoré.
Faut pas embêter Manon. Ouais, je vous le dis tout de suite.
Et je me suis mis au cross. Donc, course à pied, natation. Je suis rentrée des États-Unis après un an. Donc, j'avais la course à pied comme corde à mon arc. La natation, j'avais vraiment appris à nager de manière technique, compétitive. Même si, voilà, c'était pas un gros niveau, je savais nager le crawl. Et le vélo, en fait, je suis originaire de La Rochelle. Et à La Rochelle, pour ceux qui connaissent, la voiture est assez... proscrite et tout se fait à vélo. Donc en fait, depuis gamine, je fais tout à vélo. Et j'avais ces trois disciplines et je ne sais pas comment j'ai pris conscience du triathlon. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que quand je suis rentrée des États-Unis, je me suis inscrite au club de triathlon de La Rochelle. Donc j'avais 18 ans. J'en ai fait 6 mois parce que après j'avais le bac, je partais pour mes études et tout. Et ça a été la révélation. J'ai adoré le triathlon.
Ok. Tu saurais te dire ce qui t'a plu à l'époque ?
Je crois qu'il y avait le fait que ce soit nouveau. Je voyais que je progressais pas mal. Je pense que le fait qu'il y ait trois disciplines, ça se rapprochait aussi de la gym, où c'était pas rébarbatif, c'était pas... Voilà, il y avait trois sports, en fait. Je pense que j'ai vraiment compris que j'aimais les sports d'endurance à ce moment-là. Je sais pas, une espèce de mélange de recherche de vitesse et en même temps de tenir le plus longtemps possible. J'aimais bien, je trouvais qu'on allait chercher dans des ressources que je connaissais pas, en fait, jusque-là.
Ouais. Ouais, ouais. Ouais, parce que les tours, c'est assez cardio, j'imagine, la gym, tu vois, un passage sur un agrès, ça doit vite monter, mais t'es pas dans l'effort de résistance, quoi, d'aller chercher ta limite et de voir à quel moment tu craques.
Ouais, en fait, sur une heure et demie de temps d'entraînement à la gym, je m'entraînais pas pendant une heure et demie, il y avait plus de temps de repos au final que de temps d'exercice, alors que les sports d'endurance, c'est vraiment le contraire. Si je cours pendant une heure et demie, je cours véritablement pendant une heure et demie, c'est le temps effectif, quoi. Okay. Donc ça, c'était très nouveau pour moi.
Donc t'as quel âge? T'as 17-18 ans à ce moment-là?
Ouais, j'ai 18, je suis dans l'année de mon bac.
Ok. À quel moment les performances, tu vois, te font dire, tiens, il y a peut-être un petit truc à faire dans ce sport?
Bah à ce moment-là, pas du tout, en fait, parce que vraiment, je débute, je suis même nulle par rapport aux gens avec qui je m'entraîne. Je n'attire pas l'attention de l'entraîneur, personne ne croit en moi, mais moi, je crois en ce que je fais, et puis surtout, j'aime ce que je fais. Mais ça a duré que 6 mois, j'ai passé mon bac, je suis partie en prépa littéraire, Hippocagne-Cagne. Pour ceux qui connaissent, à part être entre quatre murs à bouquiner, je ne faisais pas grand-chose d'autre. J'ai passé beaucoup de concours, j'ai passé les concours de Sciences Po, des écoles de commerce, voilà, tous ceux qui sont rattachés à l'Hippocagne-Cagne. Moi, ma priorité, c'était vraiment les études. Dans ma famille, j'ai surtout été sensibilisée à ça. Le sport, ça a toujours fait partie de ma vie, mais plus comme une béquille, en fait, comme un repère, comme intégrer une communauté. C'était pas à visée professionnelle, c'était plus un équilibre de vie et une hygiène de vie que quoi que ce soit d'autre. Donc en fait, le sport professionnel, j'en ai jamais eu conscience à ce moment-là. Vraiment, je connaissais pas, je savais pas. En tout cas, c'était un milieu qui ne m'était pas ni accessible ni donné. Pour moi, c'était les études, j'étais carriériste, j'avais vraiment des grosses ambitions à l'international, en fait.
De quoi tu rêvais ?
Je voulais travailler dans les ambassades à l'étranger pour développer tout ce qui était relations culturelles et sportives entre les pays.
Wow.
Ouais, c'était vraiment ça qui m'intéressait. C'est pour ça aussi d'ailleurs que je suis partie aux États-Unis pour apprendre l'anglais, parce que j'étais vraiment dans un projet international, finalement, que je fais un petit peu, mais d'une autre manière. Donc bon, voilà, toute cette période d'études, c'était sport-plaisir, sport-entretien, sport pour pas prendre trop de poids et pour s'aérer la tête, surtout de la course à pied. Je commence à y voir un petit peu plus clair, à me dégager du temps quand je suis en école de commerce, donc j'arrive à Toulouse. Là, je réintègre un club de triathlon, vraiment mode loisir. J'ai continué pendant plusieurs mois en mode loisir jusqu'à ce que, en fait, je rencontre, au moment où j'arrive dans ce club, un entraîneur qui, en fait, est devenu mon binôme de vie. Et c'est lui qui a clairement décelé des qualités d'endurance et qui m'a accompagnée depuis, donc, j'avais 22 ans. Depuis mes 22 ans et j'en ai 33 aujourd'hui, c'est lui qui m'accompagne et qui m'a vraiment amené en fait sur le triathlon professionnel. C'est là en fait que au début je me dis même pas que ça peut être professionnel. Au début je me dis bah c'est super, c'est intéressant, je progresse. Bon, je commence à pas mal progresser, j'ai un CDI, je concilie un poste en CDI avec 15 heures d'entraînement par semaine et petit à petit les choses changent dans ma tête.
Ouais. Ça prend combien de temps
pour
que tu fasses cette transition justement de j'ai un job et je m'y consacre à plein temps finalement?
3 ans.
Ok. Ouais, donc t'as eu des performances assez rapides finalement, non? À partir du moment où tu t'y mets sérieusement, entre guillemets, où on croit en toi aussi.
À partir du moment où je m'y mets sérieusement, je me donne de toute façon 2 ans. Je me donne 2 ans pour vraiment percer et commencer à gagner un peu ma vie. Ah ouais, parce qu'en fait, je suis en CDI. Je lâche mon CDI pour devenir triathlète professionnel. Mes sources de revenus, j'en ai pas. J'ai le chômage, heureusement. Et c'est ça d'ailleurs qui m'a aidé à lancer ma carrière de manière un peu plus sereine. Mais j'ai pas de source de revenus. Donc il faut que je me donne un timing, il faut que je cadre, les choses, il faut que j'ai une stratégie en fait. Je peux pas me dire advienne que pourra. Donc quand je décide vraiment de quitter mon CDI et de me mettre dans le triathlon professionnel, je me dis on fait un business plan sur 2 ans. J'ai 2 ans pour percer, et pour percer c'était pour moi à l'époque me qualifier au championnat du monde Ironman en tant que professionnel.
En tant que professionnel. Comment ils font la différence entre professionnel et amateur ?
Alors en fait c'est assez simple, c'est juste une catégorie dans laquelle on peut s'inscrire. Pour s'inscrire, il faut envoyer une lettre à la Fédération française de triathlon qui certifie ton statut d'élite. Évidemment, il y a des critères pour ça, c'est-à-dire qu'il faut avoir certains résultats ou un certain pourcentage de temps de résultats par rapport au vainqueur d'une certaine course. Les critères, ils ne sont pas si difficiles que ça à atteindre. Donc ensuite, on a une lettre de la Fédé qui nous permet d'envoyer ça à Ironman et de prétendre à une licence qu'on paye.
D'accord. Ok.
Une licence annuelle qu'on paye.
Ok. Pourquoi tu as fait le choix d'aller sur le circuit Ironman, qui reste une ligue privée, onéreuse quand même, plutôt que peut-être d'essayer, tu vois, d'avoir un parcours plus fédéral? Tu te sentais pas bien sur des distances plus courtes, moins performantes?
Non, les distances courtes, en fait, ce sont des profils vraiment nageurs-coureurs, des gens qui font ça depuis tout petit. Moi, à 22 ans, je suis déjà adulte, enfin jeune adulte, et j'ai pas à développer ces qualités-là. Donc, c'est l'endurance, en fait, mon point fort. Et même physiologiquement, ça se voit, je suis une endurante. Je suis pas une rapide, je suis une endurante. Donc, pour moi, le circuit court, il était complètement inintéressant. J'avais aucun critère du profil du cours. Pourquoi Ironman ? Parce que à l'époque, c'était le seul circuit labellisé qui permettait aux athlètes de la longue distance de vivre. Circuit fédéral, on peut pas vivre en tant que triathlète longue distance. Il y a une course dans l'année et finalement très peu de quoi. Enfin, on peut pas vivre en fait. On n'est pas accompagné avec la Fédé, pas sur la longue distance.
Ouais, puis la seule course qu'il y a dans l'année, elle est complètement dévalorisée comparée à ce qu'elle devrait être. On gagne de l'argent quand on gagne un Ironman ? Il y a un prize money ?
Ouais, il y a un prize money et c'est le même pour les hommes et pour les femmes. C'est bien, c'est un sport moderne pour ça, le triathlon. On fait la même distance et c'est le même prize money. C'est un sport, en tout cas, sur le papier, très, très équitable. Donc oui, on peut gagner. Après, gagner une course, il n'y a toujours qu'un seul élu.
Tu ne peux pas en faire 10 000 dans l'année non plus.
Je ne peux pas faire beaucoup d'Ironman dans l'année. Tu vois, je pense que 4, c'est le grand maximum parce que ça demande quand même pas mal de ressources.
Ok, et imaginons que tu fais 4 victoires, les 4 prize money permettent de vivre et d'organiser à peu près sa vie avec un vélo, quelques déplacements et les dépenses que ça fait, tu vois, santé, matériel, ça peut couvrir pour avoir un ordre de grandeur.
Ça dépend quelle course. En fait, il y a des courses qui sont très bien rémunérées, par exemple les championnats d'Europe ou les championnats du monde. Ouais. Mais les courses, il y a plein de courses qui sont vraiment petites et à la gagne, il y a 5-6 000 euros. Alors en soi, oui, c'est un beau chèque, mais ça va pas me faire vivre. Enfin, pas sur une année. Et surtout, ça va pas couvrir tout l'investissement qu'il y a sur la préparation, sur les déplacements, sur le matériel. Si je gagne 4 championnats européens, oui. Mais généralement, on peut pas avoir 4 pics de forme dans une année. C'est assez compliqué. On peut bien vivre si on est très performant. Et c'est comme un entonnoir, en fait. Plus on est en haut de l'entonnoir et mieux on vit, parce que plus les prize money sont élevés. Quand on est un peu moyen, c'est déjà plus compliqué. Il y a un gros gap entre les meilleurs mondiaux et le reste des triathlètes.
Ouais, ok. Comme beaucoup de sports, en fait, finalement. Tu vois, je pense un des plus bels exemples, je pense, c'est le tennis. Quand tu vois le trio de grands joueurs, tu vois, ils ont gagné des centaines de millions de dollars. Si tu prends un mec qui est dans le top 50, il vit bien, mais tu vois, il termine sa carrière peut-être quelques millions. Et si t'es pas dans le top 100, tu survis.
Et j'ai un de mes cousins qui a été tennisman professionnel. Et c'était ça, en fait. À un moment, il s'est blessé. Il a vraiment cravaché pour atteindre un très bon niveau. Et il s'est blessé. Et là, il est tout redescendu au classement. Et il n'a pas eu la foi de continuer parce qu'en fait, il fallait tout refaire le même investissement pour reprendre des points. Et en fait, c'est des sports qui demandent énormément d'investissement sans certitude que ce soit récompensé à la fin, parce qu'en fait, il y a du monde.
Ah ouais, bien sûr.
Et le triathlon, ça se densifie de plus en plus. Vraiment de plus en plus d'athlètes.
Du monde, ouais. Puis il y a des nouvelles ligues qui se créent, là, je crois, avec...
Le PTO.
Ouais, il y a le Super League aussi, comme nom.
Ouais, mais c'est plus orienté courte distance, la Super League. Là, ça commence un petit peu à perdre un petit peu en vitesse, la Super League. Mais ça a été l'un des circuits quand même qui a généré pas mal d'argent. Le PTO, maintenant, génère pas mal d'argent. Même si c'est pareil, il focalise sur le top 4-5 mondial. Ça permet quand même d'aller chercher des points et d'aller chercher des belles sommes d'argent. Donc je trouve que ça se développe globalement, ça se professionnalise, ça se développe. Il y a de plus en plus de moyens de gagner des sous, mais on est quand même sur un système vraiment, vraiment entonnoir, quoi.
Ouais, élitiste à fond. Ouais. Pas facile à gérer. Ça demande effectivement du coup de compléter avec des sponsors. Certains bossent encore un peu aussi, j'en vois de temps en temps, en étant entraîneur ou en accompagnant d'autres athlètes. Mais du coup, ça vous fait des semaines de psychopathe, quoi.
Bah, en fait, c'est ça que je trouve pas très professionnel encore dans notre façon d'aborder la discipline. C'est que je sais pas trop comment c'est dans les autres pays. J'ai envie de dire que c'est mieux ailleurs. Mais finalement, j'y suis pas. Et s'il faut, si on interroge une Allemande, elle va me dire que c'est la même galère. Mais aujourd'hui, effectivement, il y a pas mal d'athlètes qui sont obligés de compléter. Moi, j'ai deux avis là-dessus. Le premier, c'est que c'est un peu dommage parce que du coup, ça ne lui permet pas à la personne de se focaliser entièrement sur l'entraînement. Et quand on ne se focalise pas entièrement sur l'entraînement, on perd du terrain par rapport à ceux qui peuvent. La deuxième chose, c'est que je pense que ça génère une telle pression et on est tellement dans une bulle quand on fait du triathlon qu'avoir quelque chose à côté, parfois ça peut décharger mentalement, apporter un petit peu de confiance, se dire qu'on dépend pas que du triathlon pour vivre ou survivre et que du coup on est peut-être un peu plus libéré sur la ligne de départ. Parce que quand on a le poids de savoir comment on va réussir à finir l'année ou savoir si on va réussir à gagner des partenaires ou les conserver, savoir si on va réussir à gagner de l'argent, etc. Quand on a ce poids-là sur les épaules au départ d'une course, ben on n'est pas libre, on n'a pas l'esprit libre et on n'est pas performant. Donc parfois, c'est pas mal aussi. Moi, je sais que j'ai toujours veillé à garder, alors c'est pas forcément un métier à côté, mais c'est toujours une activité autre qui me permet d'avoir la tête un peu occupée différemment.
Ouais, bien sûr, pour pas avoir cette pression-là et savoir que t'es pas uniquement dans ton identité qu'une triathlète et que si la triathlète elle performe plus, Manon elle survit, enfin elle vit aussi elle est quelqu'un d'autre aussi, tu vois.
C'est marrant que tu me parles de ce sujet-là de l'identité parce que je pense que c'est une des questions phares à laquelle je suis en train de me confronter depuis quelques mois. C'est vraiment la notion d'identité. Quand on devient sportif professionnel de haut niveau, on ne devient plus que ça aux yeux des autres. Alors qu'en fait, on est plein d'autres personnes. On est un conjoint, une conjointe, une sœur, un frère, une fille, une nièce. On aime plein d'autres choses aussi dans la vie. On n'aime pas que faire du triathlon. On ne vit pas et respire. On vit et on respire triathlon, mais on aime faire plein d'autres choses à côté. Et cette notion d'identité-là, où finalement on définit notre valeur en fonction de ce qu'on est capable de produire en course, on s'y perd complètement. On perd fondamentalement notre identité. Et là, tu vois, c'est vraiment une question sur laquelle je travaille depuis quelques mois. Qui suis-je à côté du triathlon ?
Et ça fait peur au début, les réponses.
Ça fait peur si on a oublié le reste. Si on a oublié le reste, oui, ça fait vraiment peur. On se dit, mais en fait, je suis rien, je suis personne, et j'ai pas de place dans la société si je suis pas triathlète. Donc, cet équilibre-là, je pense que quand on est en train de construire sa carrière, il faut pas l'oublier.
Mais il y a vraiment le temps, quand on fait du triathlon ultra longue distance, quand je vois vos chiffres d'entraînement à tous et toutes, je me dis, mais plus l'entraînement invisible, que vous citez pas, tu vois, mais par l'entraînement invisible, tu vois, j'entends le réglage de son vélo, les petits nettoyages, aller à la recherche du prochain matos, la petite demi-heure d'étirement, les petits massages que tu te fais, le temps que tu vas passer à choisir tes compléments, à cuisiner et tout, enfin, il reste du temps dans une journée. Vraiment.
Bah là, t'as aussi oublié la recherche de sponsors, travailler avec les sponsors, préparer son matériel, travailler sur la tenue de course, la visibilité, créer du contenu sur les réseaux sociaux, parce que maintenant, ça fait partie aussi de notre métier. Toujours avoir un peu un coup d'avance sur ce qui va se passer, préparer l'avenir. En fait, c'est vrai qu'il y a mille et un sujets, mais c'est passionnant. Et oui, notre semaine, elle est archi complète. Si on pouvait en avoir deux en une, je pense qu'on les prendrait toutes. Mais ouais. Oui, on a toujours le temps de faire ce qui est important pour nous. Moi, je pense que la personne qui dit « je n'ai pas le temps », c'est plus un problème d'organisation, peut-être de motivation, mais rarement un vrai problème de temps.
Ouais. Bah, moi, c'est mon coach qui me dit toujours... alors, c'est plus un coach business, mais il me dit « il n'y a jamais de problème de temps, il y a juste un problème de priorité ». Si tu repenses à ça, c'est que tout s'éclaircit, tu vois. Et c'est dur de dire non des fois à certaines choses, tu vois, quand on te demande d'accomplir beaucoup, tu vois.
Ouais, mais je pense que c'est plus tu sais dire non et plus tu te protèges. Donc c'est super important. Moi, je trouve que toutes les semaines, ou tous les dimanches soirs, ou tous les lundis, c'est super important de se dire, ok, quel est mon objectif cette semaine? Quelle est ma priorité? Et recentrer à chaque fois. Parce qu'en fait, les sollicitations, elles sont super nombreuses et on peut vraiment beaucoup de fois s'égarer. Si tu recentres à chaque fois, hop, tu sais où tu vas. Et c'est important de le faire. Surtout quand t'es patron de ta propre entreprise, en fait.
Ouais, clairement. Il y a quoi, du coup, chez Manon, à côté du triathlon ?
Mais moi, j'ai ma famille, ouais, j'ai mes proches, je pense que ça, c'est très important. J'ai un club de triathlon, alors tu vas me dire, ça sort pas du triathlon, mais n'empêche que c'est un club, une association sportive que je monte et qui m'oblige à m'occuper d'adhérents. J'aime bien m'engager dans des projets. Là, tu vois, depuis cet hiver, je suis engagée dans un projet qui s'appelle la Maison du sport au féminin et qui se développe en région Occitanie et qui est là, qui est une maison, en fait, qui vise à promouvoir et à aider, accompagner, soutenir le développement de la pratique sportive féminine. Et après, j'essaie de construire l'avenir. Tu vois, je suis sur des projets personnels pour construire un petit capital pour préparer ma retraite, qui n'est pas imminente, hein, mais ça se prépare toujours avec un peu d'avance. Et après, je réfléchis toujours aussi à l'avenir, savoir ce que je ferai après carrière. Et ça commence à se préparer maintenant. J'essaie de travailler sur des choses un petit peu, tu sais, le travail du petit poussé. Planter des graines, déposer des cailloux pour qu'un jour je puisse récolter les fruits de tout ce que j'ai fait pendant ces années-là.
Ok. Tu peux en parler ou... Peut-être que c'est encore un peu trop tôt.
C'est peut-être un petit peu trop tôt, mais...
Encore des miettes de pain.
Ouais, c'est des miettes de pain. En fait, j'essaie de voir ce dont le sport manque. Je trouve que les sujets aujourd'hui de la place de la femme dans le sport, c'est des sujets vraiment brûlants et qui méritent encore beaucoup d'attention. J'aime beaucoup aussi l'idée d'accompagner les jeunes. Parce que quand je vois comment j'ai développé ma carrière sportive, Fred, mon conjoint, me disait avant que je vienne à Paris, là, il me dit « Mais Manon, rappelle-toi que t'es partie de rien, de strictement rien du tout. J'ai la chance d'avoir une famille, quelque chose de stable, un environnement qui a été propice finalement à ce que je puisse me développer en tant que personne et ça, voilà. Mais je suis partie de rien dans le sens où quand j'ai commencé le triathlon, à part mon conjoint Fred, il n'y avait rien ni personne, en fait. J'ai tout construit sans connaître la discipline et je suis montée au plus haut niveau français, voire mondial, toute seule. Et je me dis, mais moi, ce n'est pas ça que je souhaite aux jeunes. Je ne souhaite pas leur apporter tout cru dans le bec, mais je me dis, je pense qu'on peut encore professionnaliser l'accompagnement des sportifs pour qu'ils aient moins d'énergie dépensée et moins de temps perdu dans la recherche de comment monter une carrière.
Il y a beaucoup de choses à faire.
Il y a beaucoup de choses à faire.
Tu sais que je suis énormément contacté par des agences d'édition de livres, tu vois, des grandes maisons d'édition. Beaucoup me disent, ouais, bah, là, t'as 300 interviews, t'as plein de contenu, qu'est-ce que t'aimerais faire? Moi, je leur dis, bah, le plus gros problème, c'est ça, c'est de monter une carrière. Il y a 10 000 jeunes tous les ans qui arrivent sur les listes du gouvernement athlètes de haut niveau, et il y a pas grand-chose, honnêtement. Et je me dis, un projet qui pourrait être cool, c'est de rappeler du coup les 200 invités. Tiens, ok, c'est quoi ton tips? Tiens, à quelle porte faut taper? Quel bouquin faut lire? Comment tu peux trouver des personnes de confiance? Et tu vois, d'en faire une bible, quoi. Tu vois, vraiment la bible du haut niveau, et que tu fais, que t'envoies à tous les enfants qui démarrent, quoi. C'est un des sujets que j'aimerais bien réaliser un jour, tu vois. Et c'est le faire avec vous tous, parce que tu vois, je pense que.
Mais je pense qu'il y a d'autres choses aussi à développer dans le triathlon, ou dans le triathlon, dans le sport, tu vois. On part très très souvent à l'étranger pour aller chercher des complexes sportifs. En Espagne, qui sont pas mal développés. Ce sont des hôtels dans lesquels on trouve une piscine extérieure, salle de sport, etc. En France, je ne vois jamais un endroit où tout est rassemblé pour que le sportif puisse s'entraîner. Alors tu vas me dire, t'as le Krebs, etc., Font Romeu, etc. Mais finalement, t'en as très peu. Parfois, ils sont assez onéreux, et Font Romeu, ça veut dire qu'il faut aimer l'altitude. On n'a pas forcément, tu vois, tout le temps besoin de s'entraîner en altitude. Donc, je pense qu'il y a des structures d'entraînement, vraiment des infrastructures d'entraînement qui manquent en France, et ça mérite vraiment de s'y attarder. Et la deuxième chose, c'est effectivement, comme tu dis, un recueil où on puisse retrouver des contacts, parce que le temps de monter son équipe, le temps de monter son staff, rencontrer les gens, savoir tout de suite que ce sont des personnes compétentes et de confiance, c'est très long et ça demande beaucoup de temps. Et ça peut être
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Et la confiance en plus. Mais j'ai juste envie d'apporter un petit réajustement là-dedans, c'est que quand tu montes ton équipe, tu montes une équipe en fonction de toi. Et c'est pas parce que ça a fonctionné avec quelqu'un, tu vois, que ça a fonctionné avec toi. Je trouve que c'est un peu un écueil aujourd'hui où on se dit, bah lui, il est bon parce qu'il a travaillé avec un tel, donc il sera bon pour moi. Non, en fait, la personne qui est bonne pour soi, c'est la personne qu'on sent bonne pour soi. Et ça ne veut pas dire que la personne, elle sera ultra diplômée, etc. Enfin, un million de compétences. C'est juste quelqu'un qui va répondre de manière bienveillante à ce qu'on est. Et ça, c'est très, très personnel. Il faut faire des rencontres, il faut se tromper. Il faut, voilà, faut faire son bonhomme de chemin pour savoir en fait qui on est et savoir ce qui nous correspond et qui nous correspond.
Ok. Bon, bah, je te rappelle pour la partie s'entourer. Mais tu as tout à fait raison, tu vois, et c'est une des choses que moi je reproche un peu aux structures un peu comme l'INSEP et tout, c'est qu'on place, tu vois, des gens, on t'impose plus ou moins des entraîneurs. Tiens, c'est monsieur équipe de France, il faut absolument le suivre. Si l'humain passe pas, et ça veut pas dire que c'est une mauvaise personne, et ça veut pas dire que c'est quelqu'un qui bosse pas bien, bah, en fait, derrière, toi, en tant qu'athlète, t'es un peu conditionné parce que, bah, tu vas pas te sentir à l'aise, tu vas pas te sentir bien, et c'est un vrai bloquant, et au contraire, tu vois, justement, comment trouver les personnes qui te conviennent bien? Tu vois, je pense qu'il y a plein de tips, tu vois, pour tester quelqu'un, voir si ça marche bien, quels sont les signes que ça marche pas bien, tu vois. Je pense qu'il y a plein de trucs qu'on t'apprend pas, et je pense qu'il y a beaucoup d'athlètes aussi à qui on n'apprend pas à réfléchir, et on leur dit, c'est cette personne-là, t'as pas le choix, fais-le, c'est le meilleur, tu vas voir, tout va bien se passer. Et on n'apprend pas à avoir un esprit critique. Ça, c'est ce qui manque dans le sport.
Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, je trouve que l'approche par rapport aux sportifs, elle est très extérieure. Alors qu'en fait, la première approche qu'on doit avoir, c'est toi en tant qu'athlète et en tant que personne, quelle est ton identité? Qui es-tu? Ce que tu aimes? Ce que tu préfères? Etc. C'est hyper important de revenir à soi. Et je pense que c'est ça, en fait, le tips principal. C'est, il n'y a pas de questionnement ou de questionnaire à avoir ou de question piège ou un truc comme ça. C'est toi en tant que personne, qu'est-ce qui te correspond? C'est sûr que si on t'impose un entraîneur, parfois, c'est souvent dans les sports un peu olympiques où tu vois, où il y a vraiment des recherches de résultats. Nous, dans le triathlon longue distance, on est très indépendant parce qu'on n'a pas de structure. Donc, en fait, on peut choisir. Mais c'est ce que j'ai beaucoup appris en prépa mentale, c'est quand je suis devant une situation où je ne sais pas, en fait, parce qu'on me perturbe, parce que, tu vois, dernièrement, on me dit ton micronutritionniste, c'est un charlatan, surtout éloigne-toi-en, etc. Et je me dis, mais en fait, j'ai eu très peur. Ça fait très peur quand on te tient ce genre de discours parce que moi, j'ai pas envie d'être travailler avec un charlatan. Et à chaque fois, on me dit, ma préparatrice mentale me dit, reviens à toi. Est-ce que toi, cette personne t'apporte, etc. Et en fait, à partir du moment où tu fais revenir les choses à toi et que c'est toi qui réponds à tes propres questions, tu arrives en fait à percevoir si cette personne, elle est bien pour toi ou pas. Le travail à faire, c'est surtout pour l'athlète d'apprendre à se connaître.
Ouais, je suis entièrement d'accord. Mais c'est, en plus, c'est la première étape de tout, tu vois. Pareil quand tu montes une boîte, enfin, de toute performance en fait. Tu vois, c'est d'être aligné avec qui tu es, de savoir quels sont tes points forts, de te concentrer sur ceux-ci, sur tes points faibles, t'entourer, te faire conseiller, pas à chercher à les corriger ou les effacer, mais juste en avoir conscience, voir aussi le bon côté de la pièce. Tu vois, hier, j'ai eu un copain qui m'envoie un message et qui me dit, c'est pas un copain, c'est quelqu'un que je donne des formations, tu vois, pour apprendre justement à des jeunes créateurs de contenu à être plus professionnels et à mieux travailler avec les marques. Parce que pour moi, ça marche et du coup, j'ai envie de le transmettre à d'autres et j'ai envie de créer mon petit groupe, tu vois, de où on s'entraide. Et il y en a un qui me dit, ouais, t'aurais pas des troubles d'hyperactivité et de la tension, tu vois. Et je lui dis si. Et il me dit, c'est pas gênant et tout pour ce que tu fais. Je lui dis, mais non, je m'en fous. Il me dit, mais pourquoi? Et je lui dis, mais en fait, parce que je regarde que le bon côté. Le bon côté, c'est que je suis hyper dynamique. Tu vois, on me propose un truc, un projet à la dernière minute. J'ai le temps, j'y vais, je fonds, je me pose pas une question. Bon, en tant qu'entrepreneur, je suis hyper dispo, je réponds à mes messages rapidement, je suis à fond. Là, tu vois, on va terminer l'interview. Bon, je suis avec Denis cet après-midi, je pars à Toulouse, je vais interviewer Frédéric Michalak, tu vois. Mon énergie est débordante, déjà. J'ai 1000 idées à la seconde. Je suis un peu dur avec mes équipes parce qu'il faut me suivre. mais voilà, et en fait, ouais, il y a plein de trucs. Et là, tu vois, je coupe les notifs, tu vois, j'ai conscience que moi, mon ennemi, c'est le téléphone, il faut pas que je le regarde parce que mon trouble de l'attention, il apparaît. Mais quand je suis avec toi, j'en ai aucun. Enfin, tu t'en serais pas douté, tu vois. J'arrive à me poser. Tu vois, c'est hyper important, je pense aussi, ouais, justement, pour les athlètes de voir la beauté de certains trucs qu'on peut leur dire, être des défauts, et d'apprendre à se connaître et de voir toujours le bon côté de leur personnalité, quoi.
Mais je pense que c'est pas que les sportifs, je pense qu'en fait c'est tout le monde. En France, on a vraiment tendance à nous mettre dans un moule. Si on a un cheveu qui dépasse, on nous le fait remarquer. Alors que pour moi, la richesse de l'humanité, c'est nos différences. Et c'est ça en fait, c'est nos différences qui vont faire qu'on est exceptionnel. C'est pas le fait de tous ressembler. On n'est pas des moutons, il faut arrêter d'agir comme des moutons. On a tous des forces, des faiblesses, des points forts, des points critiques, des choses sur lesquelles on aimerait s'améliorer. Mais à partir du moment où on a conscience de tout ça et qu'on a décidé exactement, comme tu le dis, de voir le bon côté des choses et d'en faire des forces, bah, en fait, on peut tous trouver notre place dans le monde. Donc vraiment, je trouve que c'est quelque chose qui ne se restreint pas du tout aux sportifs de haut niveau, qui est valable pour n'importe quelle personne.
Ouais, clairement. Tout le monde peut trouver sa zone de génie, ça c'est ouais. Sûr. C'est
et on
sûr.
Est tous bons quelque part.
Ouais. T'as vu cette petite vidéo là qui tournait un peu sur les réseaux sociaux de cette petite fille qui est sur un terrain de foot et on lui fait tirer un pénalty et tu vois, elle tape à côté de la balle ou... Tu vois, la balle fait à peine deux rebonds parce qu'elle a tapé à côté, enfin bref. Et elle boude, tu vois, elle râle, et puis d'un seul coup, elle se met à faire trois saltos, tu vois, comme ça.
Oui.
Et tu te dis, en fait, c'est juste des gens qui sont pas au bon endroit.
Ils sont pas au bon endroit.
au bon moment, et cette petite fille que tu pourrais te dire 15 secondes avant qu'elle est gauche, tu vois, ou maladroite, bah, juste après, tu te rends compte que c'est elle est génie, quoi. Tu vois. T'as parlé de prépa mentale. Je voulais t'en parler pas mal aujourd'hui, je t'avais prévenu, parce que pour deux raisons. La première, c'est que comme je te le disais, sur les réseaux, ça fait un moment que je te suis et tu parles beaucoup de ta vulnérabilité. J'ai l'impression que tu l'acceptes, que tu l'embrasses et presque t'encourages les autres aussi à accepter cette part d'imperfection, cette part de vulnérabilité. Et la première question que je voulais te poser par rapport à ça, c'est est-ce que le fait de l'écrire et d'en parler publiquement pour toi, c'est une forme de thérapie ? Ou c'est une forme de pourchasser ses pensées ou mieux les gérer, mieux les entendre.
En fait, j'ai toujours voulu être sincère. Je suis quelqu'un de sincère, quelqu'un d'honnête. Et je me suis toujours dit que mes réseaux sociaux, j'étais là pour être moi-même, en fait. Parce que si je ne suis pas moi-même, je vais avoir du mal à communiquer. Donc, je sais que je suis quelqu'un qui... Je suis vulnérable, mais je pense qu'on l'est tous. Et j'ai pas décidé de le cacher, parce qu'en fait, le cacher, ce serait mentir. Je pense pas que ce soit une thérapie, parce que j'utilise pas les réseaux sociaux comme thérapie. Mais par contre, j'aime bien le communiquer sur les réseaux, parce que j'ai toujours eu besoin d'utiliser mes réseaux pour apporter quelque chose aux autres. Je les fais pas pour moi, mes réseaux. J'ai besoin d'être en accord avec ce que je communique, mais j'écris pas pour moi. J'écris pour transmettre un message, pour transmettre une expérience, une analyse, et que ça aide les gens. Il y en a que ça aide, il y en a que ça aide pas, peu importe. Cette part de vulnérabilité, en fait, on l'a tous en nous, et j'aime pas trop le fait de montrer qu'on n'est pas vulnérable, parce que c'est pas la vérité. Et même si ça me fascine d'une certaine manière de voir certains athlètes ou certaines athlètes être toujours très sûrs d'eux, je sais qu'au fond, c'est pas vrai. Moi, j'ai décidé de jouer la carte vérité. Je sais pas si ça répond à ta question.
Ça répond très bien. Ça répond très bien, tu vois. T'écris beaucoup ? T'as un carnet intime ou un journal ou tu fais de l'écriture ?
Ouais, j'écris. J'écris parce que je pense que ça me servira plus tard. J'écris parce que c'est une forme de thérapie. J'écris parce que poser sur le papier, c'est mettre vraiment au clair ses idées. Et puis c'est aussi se délester de quelque chose.
Ouais, clairement. Je ne peux qu'approuver, tu vois, cette pratique. Et moi aussi, j'écris tous les matins, tous les soirs. Mes fiertés, mes doutes, enfin, plein de choses. Tu dis que, tu vois, certains ne montrent peu, tu vois, cette part de vulnérabilité. Moi, je pense peut-être qu'ils se connaissent moins que toi. Et du coup, je voulais te poser la question de quels ont peut-être été les événements marquants, des pratiques, des routines qui ont, toi, t'ont beaucoup aidé à apprendre à te connaître. Comment t'apprends à te connaître ?
Moi, j'ai commencé à vraiment apprendre à me connaître quand justement je suis passée dans le triathlon professionnel. Parce que c'est un tel challenge et ça demande tellement de ressources, ça demande tellement d'être face à soi-même et à pas se mentir en fait. Hein, parce que quand on se ment, qu'on est dans une carrière sportive professionnelle et qu'on se ment, clairement on n'est pas sur le droit chemin. Hein, parce qu'on va faire un million de bourdes, on va faire des erreurs et puis... Bon, je pense que la lucidité est notre meilleur allié. Donc ça a été peut-être ma première thérapie, même si elle était finalement inconsciente. La deuxième chose, c'est que j'ai mis en place tout simplement un suivi en préparation mentale qui m'a pas mal aidée parce que j'ai eu pas mal d'outils pour comprendre mon fonctionnement. C'est quelque chose que je continue encore aujourd'hui, quasiment... Enfin, toutes les semaines, tous les 15 jours, j'ai vraiment un suivi en préparation mentale. Il y a l'écriture, on l'a déjà dit. Et il y a beaucoup de lectures aussi. En fait, je me questionne beaucoup sur mon fonctionnement. J'essaie de le comprendre. Après, je ne suis pas sûre. Tu vois, tu dis que les autres ne se connaissent peut-être pas autant. Je ne suis pas sûre. Il y en a qui se connaissent très très bien, mais qui ont décidé de ne pas partager la vulnérabilité parce qu'ils ne sont pas à l'aise avec ça. Et c'est OK. En fait, ce qu'il faut, c'est juste être à l'aise avec ce qu'on dit, ce qu'on communique.
Ouais, mais je vois quand même plus de gens. Après, c'est mon avis. Hein. Ça n'engage que moi. Et je veux pas faire le psychologue du tout. Mais je trouve toujours est-il que je trouve qu'il y a plus de gens qui ont du mal à mettre des mots sur leurs ressentis et sur ce qu'ils pensent et ce qu'ils ressentent plutôt que des gens qui arrivent à mettre des mots mais qui décident simplement de pas les partager. Après, c'est un avis personnel. Ça peut être dérangeant aussi, tu vois, pour les gens qui font beaucoup d'introspection, qui ont une intelligence intrapersonnelle très développée, de se confronter à des gens qui ont une intelligence intrapersonnelle moins développée, de leur dire ça, tu vois, et parce que ça peut être douloureux à entendre, tu vois, je le sais. Et du coup, tu vois, enfin, il n'y a pas de mal à ça, mais en tout cas, c'est un constat que je fais, que je trouve. C'est pas inné, en fait, de s'intéresser à soi.
Non, c'est pas inné, c'est pas facile, parce que je te dis encore, enfin, moi, je trouve que c'est assez dérangeant, finalement, d'être face à soi, face à ses blessures. Mais c'est encore plus dérangeant de les mettre en lumière. Tu vois, tu peux très bien être face à tes blessures et décider de pas les mettre en lumière parce que t'es pas du tout à l'aise avec ça. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les réseaux sociaux, c'est quand même très particulier et que quand tu mets en lumière quelque chose, il faut derrière que t'assumes les répercussions que ça peut avoir. Moi, je sais très bien que si je montre une part de vulnérabilité, je vais m'exposer à des gens qui vont s'engouffrer dans la faille et essayer de m'écraser, etc. Mais ça, je pense que... Tu vois, les gens qui essaient de montrer qu'ils sont sûrs d'eux, souvent, ça montre le contraire, en fait. Souvent, quand tu montres que t'es trop sûr de toi, pour moi, je l'analyse d'une manière où, quand tu veux absolument prouver quelque chose, c'est qu'au final, t'es vraiment pas sûr de ce que t'as envie de prouver. Donc pour moi, c'est plutôt la preuve d'un manque de confiance ou un manque de, ouais, d'assurance envers ce qu'on est en train de faire que d'essayer à tout prix de montrer que ce qu'on fait, c'est important, c'est intéressant et qu'on est sûr de soi. Mais ça, c'est mon analyse.
Non, mais je la comprends très bien. Et tu vois, à l'inverse de ça, tu me disais en préparation que tu t'es mis un peu dans ta bulle. Tu t'es mis un peu à part de cette bulle du triathlon. Là encore, ça n'engage que moi, mais c'est que le triathlon est un magnifique sport, je trouve, mais qui parfois souffre un peu d'entre-soi. Et parfois, et ça, je m'en suis rendu compte qu'avec Extraterrien, je m'en rendais pas compte avant, tu vois, où les gens se regardent pas mal parce que, effectivement, il y a les temps, c'est public, il y a des beaux matos, il y a des classements avec des points. Et du coup, il y a beaucoup de comparaisons. Et toi, tu me disais ouais, que tu t'étais mis dans ta bulle. Est-ce que c'est pour se protéger de ça? Est-ce que c'est pour toi, tout simplement, trouver ton rythme? Mais un des trucs que je trouvais assez admirable, c'est que tu t'es écouté. Certains vont s'obliger, tu vois, à jouer le jeu du Strava, de tout ça, des réseaux sociaux, mais tu sens que c'est pas naturel et que c'est pas voulu, toujours. Est-ce que tu penses que parfois, bon, c'est très lié au réseau, mais est-ce que ça aurait pu être toxique pour toi, cet écosystème où tout le monde se regarde un peu, quoi, où tout le monde se compare, je sais pas comment tu le perçois. Moi, à la longue, je trouve ça toxique pour moi, donc tu vois, j'ai arrêté Strava, par exemple.
Ouais. Bah, je pense que j'ai commencé en étant à fond. Tu vois, j'avais Strava avant. Je pense que c'est l'expérience qui a fait que je me suis rendu compte que plus j'étais dans ce moule-là, moins j'étais alignée. Volontairement, je me suis désabonnée de Strava, pas parce que je trouve que la plateforme est inintéressante, au contraire, juste parce qu'en fait, quand tu commences à avoir un peu pignon sur rue, on voit où t'habites, on voit où tu es, on voit combien de kilomètres t'as fait, et puis les commentaires, et est-ce que tu devrais pas faire ci, est-ce que tu devrais pas faire ça. En fait, on est beaucoup, les gens regardent beaucoup, en fait, ils comparent beaucoup, ils analysent. Je me suis retrouvée dans des situations où les gens me donnaient leur avis. Et moi, j'ai pas besoin de l'avis des gens parce qu'ils connaissent pas ce que je fais, ils savent pas ce dont je suis capable ou pas. En fait, ils savent rien.
L'avis non sollicité.
Ouais, voilà. Donc en fait, je me suis petit à petit un peu renfermée, peut-être. Peut-être un peu mise dans ma bulle, effectivement. C'était vraiment volontaire, mais c'était vraiment pour me protéger. Parce que plus j'ai d'interactions extérieures, plus ça peut apporter du doute sur ce que je suis en train de faire. Et on revient à ce que je dis, je pense que la notion de confiance en soi, elle vient de l'absence de sollicitations extérieures. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut se couper du monde, ça veut juste dire qu'il faut choisir en fait, les sollicitations qu'on accepte. Et je pense que c'est ça que j'ai fait. Je me suis coupée de cette manière-là. Maintenant, c'est moi qui décide. Qui a le droit d'intervenir dans ma vie? C'est vraiment de la protection.
Ouais. Ouais, alors qu'effectivement, quand t'es présent un peu sur plein d'applications, sur plein de trucs, ça vient un peu de partout et c'est difficile à modérer, en fait.
Ouais, puis c'est hyper énergivore, en plus, hein. Enfin, moi, les réseaux, je suis sur Insta et ça me suffit, hein, parce que... oui, ça suffit. Pas la tête à faire beaucoup, beaucoup plus.
Non, mais c'est vrai que ça prend un temps de fou, quoi. On te le fait pas remarquer, justement, que t'es un petit peu à part de cette bulle triathlon?
Mais je suis complètement d'accord avec moi-même d'être à part. Donc en fait, même si on me le fait remarquer, en fait, j'en suis fière. Je me dis, ok, bah, ça veut dire que je suis très alignée avec qui je suis et que je l'assume entièrement. Après, j'ai des relations. J'ai des relations avec beaucoup de monde dans le triathlon, mais je les ai de manière personnelle. Voilà, je vais avoir des relations personnelles. Si les relations sont pas entières, je les ai pas.
Ok, et c'est très bien.
Bah, c'est comme ça que j'aime les choses. Donc il faut qu'elles me correspondent.
Ouais, mais t'as tout à fait raison. Moi, c'est des sujets qui me passionnent et je pourrais en parler pendant des heures, mais il y a d'autres choses que je voulais un peu parler. Sujet pas facile et qui m'a, en plus, qui était un moment où on échangeait tous les deux. T'allais partir à Kona l'année dernière. Et moi, je brûlais d'envie de te suivre et c'était ta troisième, donc t'as l'expérience, tu sais ce que c'est. T'y allais avec beaucoup de détermination, en tout cas, de ce que je lisais de toi. Et je pense comme toi, j'ai été hyper surpris de constater ce qui t'était arrivé. Au début, tu vois, j'avais juste vu un abandon, je comprends pas trop. Avec le recul, tu vois, là, plus de 6 mois après, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui dépendait de toi? Qu'est-ce qui dépendait pas de toi? Sur une échéance, tu vois, d'une si haute importance, tu vois.
Hawaï 2022, c'est les mondiaux Ironman, je suis extrêmement préparée. J'ai vraiment rien laissé au hasard. J'ai mis tout bout à bout pour que ça fonctionne. Je peux te le dire, j'avais jamais été aussi performante dans mes entraînements. Ça se voyait, j'étais affûtée, j'étais en forme. Mais j'étais en forme, on aurait dit que j'étais en forme en fait. Mais en fait, Kona 2022, c'est juste la dernière étape d'un souci de santé que je me traîne depuis 2019. Enfin, qui a commencé en 2019, où voilà, j'ai été au bout du bout de ce que j'étais capable de supporter. Et voilà, donc du coup, ça faisait quand même quelques années que j'étais dans le déni de ce qui m'arrivait. Donc oui, comme ça, vu comme ça de l'extérieur, c'était très surprenant cet abandon, mais c'était la suite logique de ce qui était en train de se passer depuis quelques années.
Ok. Tu peux dire ce que c'était ou...
Ouais, je peux le dire parce que je pense que c'est un sujet qui est important. Fin 2018, j'étais à Kona aussi. Et en tant que professionnelle, c'était ma première qualification en tant que professionnelle et je me suis rendu compte que j'avais pas encore tous les aspects de la professionnalisation du triathlon qui étaient vraiment maîtrisés. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais un problème dans tout ce qui était apport nutritionnel. Kona 2018, je m'effondre parce que j'ai pas assez à manger, j'ai pas assez de calories à l'effort et que, en fait, je maîtrise pas cet aspect-là. Je sais pas encore vraiment comment constituer mes assiettes. J'ai envie d'apporter un peu plus de technicité et de connaissances sur mes apports nutritionnels. Donc je me dirige vers un diététicien nutritionniste qui a été en fait la plus grosse erreur de ma carrière puisque cette personne était vraiment axée sur la restriction glucidique. Donc ma recherche de performance passait par une recherche d'affûtage, mais une recherche d'affûtage, dans mon langage en tout cas, c'est pas forcément une recherche de maigreur. C'est une recherche d'optimisation de masse grasse, masse musculaire. Cette personne, je me souviens très bien, m'a demandé sur notre premier échange, elle m'a demandé combien tu pèses. Et je lui ai dit, à mon poids de forme, c'est-à-dire celui dans lequel je me sens bien en compétition, je suis entre 56 et 57 kilos. Il me dit, ok, on va te faire descendre à 54. Ça m'a interpellée et je me suis dit, mais pourquoi ? Enfin, c'est quoi en fait ? Quel est le rapport avec ce chiffre ? Pourquoi moins 2 kilos sur un poids de forme ? Ça a été ma première alerte, je ne l'ai pas écouté. Il m'a fait rentrer sur vraiment un régime très restrictif, autant en glucides qu'en lipides. Et ça a duré un an et demi comme ça. Et ça a eu des conséquences absolument catastrophiques sur mon corps. Autant d'un point de vue santé physique que santé mentale. Le temps que j'arrive à faire un lien entre tout ce qui m'était arrivé pendant toutes ces années depuis fin 2019, on en est arrivé à 2022. J'ai bien tenu. Mais ça fait en fait depuis 2020 que je ne suis plus du tout au niveau de performance que je suis censée avoir.
D'accord. Pour un sujet de nutrition ?
Pour un sujet de nutrition, à la base de nutrition.
Donc là, l'objectif, ça va être des apports plus conséquents, j'imagine, une meilleure mesure, retrouver son poids de forme. C'est ça les objectifs.
Non, parce que tout ça, ça a été atteint. Après, je ne me suis pas restreinte pendant toutes ces années. Si, d'une certaine manière, je me suis restreinte, mais c'était surtout mon rapport à l'alimentation qui avait été vraiment perturbé. J'avais plus du tout un rapport à l'alimentation qui était sain. J'étais manger égale grossir. Enfin, c'était pas de l'anorexie. J'ai pas eu de comportement ni de boulimie ni d'anorexie, mais j'avais un comportement qui était malsain vis-à-vis de la nourriture et j'étais toujours dans la restriction. Et en fait, ça a des conséquences sur le corps et sur la tête qui sont gravissimes. Hein. Et je pèse vraiment mes mots parce qu'en fait, je me suis rendu compte que chez les sportifs d'endurance, c'était souvent le cas et chez les femmes encore plus. Et c'est vraiment l'une des erreurs à éviter. Moi, ce qui me perturbe beaucoup, c'est que j'ai été amenée sur ce terrain. C'est-à-dire que je n'avais pas cette faiblesse-là avant, mais j'ai été amenée dessus. Donc là, l'objectif actuel, cet hiver, j'ai eu le droit au burn-out et tout. Hein. je suis allée au bout du bout, j'ai cru que j'allais arrêter ma carrière. Là, c'est plutôt remis à plat. L'objectif aujourd'hui, il est surtout de retrouver des sensations et repartir sur un nouveau cycle, on va dire, qui me permette d'être en pleine capacité. Donc d'avoir les bons apports, mais aussi la bonne relation à la nourriture pour que ce ne soit plus un fardeau, en fait.
Ok. Bah écoute, c'est... Enfin, le monde est petit et c'est marrant de voir à quel point le monde est synchronisé parce que je travaille avec NutriPure, du coup, qui est partenaire de Extraterrien, que tu connais bien. Et on est en train de préparer justement un épisode sur les TCA chez les athlètes de haut niveau. Et du coup, je garde ton témoignage sous le coude. Ok. Pour parler un peu de la partie préparation et puis J'aurais pu rester 2 heures, on aurait pu rester 2 heures, mais je sais qu'on est un peu pressé par le temps. Je voulais aussi terminer sur ce sujet-là, tu vois, de la prépa et un peu de comment tu t'as organisé ta saison, justement, après tout ça. Là, tu fais une course un peu particulière, justement, qui s'appelle la Iota Experience. Donc, il y a un swim run, mais très particulier, qui est sous forme de manche, où le cap time réduit à chaque manche, et du coup qui est sur 3 boucles minimum et qui monte jusqu'à 5, qui est sur lesquels les hommes et les femmes sont pas sur la même start list, parce que je crois que c'est des temps différents. Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans ce format? Qu'est-ce qui t'a tenté sur ce format-là?
Ouais, la Iota XP, la première édition, c'était l'année dernière, donc 2022. On me contacte genre 2 mois avant l'événement. Ouais, Manon, nouvel événement, enchaînement de natation et de course à pied. Je me dis, bon, le swimrun, je sais pas, il n'y a pas de vélo. Bon, et en même temps, je sais nager ces distances. Donc c'est là, en l'occurrence, la Iota XP, même s'il y a d'autres formats qui sont plus accessibles en termes de temps, de distance. Là, c'est quand même 1 km de natation et 8 km de course à pied, x 5. Donc en fait, il faut s'avaler, allez, 5 bornes de natation et 40 km à pied. C'est quand même un morceau. Et en plus de ça, plus la course avance, plus il faut aller vite. Parce que effectivement, les cuts sont dégressifs. Mais je trouve que c'est très ludique. C'est très ludique. On va jouer, on va s'amuser. C'est une première expérience, c'est nouveau. Et moi, j'adore tout ce qui est nouveau. Donc l'année dernière, j'ai eu vraiment une super expérience là-dessus. J'ai fini 2e derrière la championne du monde d'aquathlon. Donc ouais, je m'étais bien battue, même si la Margot, je ne l'ai pas vue beaucoup. C'était vraiment une belle bataille. Et je pense que c'est un format qui a vraiment qui mérite de l'attention, parce que c'est super intéressant de faire natation course à pied
plus souvent.
Ouais, et en fait on le voit pas très souvent, et souvent quand on fait un swim run, c'est avec le pool boy, les plaquettes, il y a du matériel. Là, c'est vraiment un format ludique avec une pause entre chaque manche où on peut, tu vois, récupérer un petit peu, repréparer son matériel et tout. Donc je pense que c'est très accessible, que c'est très ludique, et moi je crois que c'est ça qui m'a plu à la base.
Ok, donc ouais, à la fois le côté fun, et enfin le mélange entre fun et performance, et nouveauté dans l'effort, quoi. Ça, c'est sûr qu'il y a un petit côté nouveau. Bah écoute, ouais, moi je la connaissais pas avant l'année dernière, et c'est vrai que ça m'a tenté, quoi. Ça m'a tenté. Bon, ça, moi ça se fait pas, je le fais pas pour des raisons de date, parce que effectivement, c'est quoi, cette année c'est 22-23 juillet.
C'est ça.
C'est à Vichy. J'ai un gros programme là à ce moment-là. En plus, c'est le Tour de France féminin, donc je serai en train de bosser cette année. Mais en tout cas, très cool, très cool. Et donc toi, ouais, de très bonnes sensations sur ce format-là.
Mais j'ai trouvé que c'était un format qui était très difficile, parce que j'ai vraiment joué la gagne. Donc forcément, je me suis donné à fond. J'ai vraiment eu du mal à récupérer, c'était dur. Ouais. Par contre, c'est super intéressant dans le cadre d'une préparation half ou Ironman. Et je me suis amusée, en fait. Je crois que c'est super important de s'amuser sur une épreuve sportive. Surtout quand c'est aussi long, c'est pas toujours facile de s'amuser. Mais là, on s'amuse.
Ok. Ça va être quoi tes autres objectifs de la saison ? Tu te mets pas un peu moins de pression cette année?
Alors oui et non. Je mets pas forcément moins de pression, parce que j'ai envie de faire des beaux résultats. Voilà, j'ai décidé de pas m'en mettre trop, parce que ça va pas me rendre performante. Donc mes objectifs, ça sera sur la fin du mois d'août, début du mois de septembre, sur des Ironman. En fait, j'ai eu un accident de vélo en début d'année là, donc j'ai eu une fracture et j'ai dû retarder un petit peu ma saison. Mais voilà, Hawaï, c'est toujours en ligne de mire. Voilà, je vais faire tout pour me qualifier encore cette année. J'ai encore une occasion de le faire. Il ne faudra pas que je la loupe. Et si ce n'est pas le cas cette année, eh ben, je repartirai sur un cycle pour 2024. Et je courrai beaucoup cet hiver, je pense. Je partirai beaucoup à l'étranger pour courir cet hiver, puisque le début de saison a été un peu compromis.
Je voulais te demander d'ailleurs, justement, parce que c'est sûrement un peu le rêve de tous les triathlons longue distance, tu vois, mais qu'est-ce qu'il y a de si particulier à Hawaï ?
Bah, je pense que c'est là que le triathlon, l'Ironman a débuté. Donc en fait, c'est historique. Ça reste...
Ouais, bien sûr.
Ouais, ça reste...
Mais en dehors de ça ?
En dehors de ça, c'est qu'en fait, l'événement est un mythe à chaque fois. Chaque année, il y a tout le monde. En fait, vous voyez Disneyland ? En fait, c'est le Disneyland du triathlète. Il y a tout, il y a toutes les marques, il y a tous les acteurs, il y a tous les gens qui sont connus d'avant, de maintenant. C'est là aussi que tous les projecteurs sont. C'est peut-être l'événement le plus médiatisé, bien plus que les JO. quand je parle du triathlon, c'est bien plus médiatisé que n'importe quel autre événement du triathlon. Ça reste mythique, c'est là où il y a eu plein de performances, c'est là où ont été couronnés les vainqueurs. Et puis c'est Hawaï, quoi, c'est assez joli.
Ouais, c'est beau, c'est un beau parcours, une belle.
Bah, je pense que à Hawaï on pourrait faire mieux. Parce qu'il y a quand même la montée du volcan et tout, ça pourrait être des parcours plus sélectifs. Là, on est en bord de mer tout le temps et c'est un aller-retour. Je ne dirais pas que c'est le plus beau parcours, mais c'est beau, c'est mythique et il y a une grosse ambiance. Et je pense que ça fait beaucoup dans la beauté d'un événement.
Ouais, bien sûr. Ouais, il y a quelque chose en plus, quoi. Toujours une atmosphère. Bon, bah écoute, j'espère qu'un jour, j'aurai l'occasion de au moins de m'y rendre pour voir ça de près. Parce que c'est quand même, comme tu l'as dit... C'est un lieu mythique. Et qu'on soit participant ou pas, c'est une grande fête. Et c'est la grande fête du triathlon. Donc tous les fans ont envie de voir ça, forcément. Bon, ça fait 1h10 qu'on est ensemble. J'avais plein d'autres questions.
Je parle trop, en fait.
Non, trop pas. C'est moi qui suis très curieux aussi, tu vois. Mais j'avais envie qu'on parle féminité, qu'on parle aussi peut-être cycle menstruel aussi, parce que je sais que tu as pris la parole sur un post qui m'a beaucoup surpris et je voulais je le mettrai en commentaire pour ceux qui veulent le lire, mais j'aurais aimé avoir un peu plus de détails sur le sujet. On n'aura pas le temps aujourd'hui, mais du coup c'est une très bonne porte ouverte pour se dire qu'on se reverra un peu moins pressé, peut-être plus du côté par chez toi, parce qu'en plus c'est un peu injuste parce que dans 2 heures je pars pour Toulouse, tu
mais,
vois.
Mais dans moi 3 aussi heures. En fait. Ah, dans 3 heures.
Il a quelle heure son train?
14. Non, je pars en avion.
Ah ok, moi j'ai le train à 15h20, tu vois, donc ça sera pour une autre occasion, et puis on aura plein de choses à se dire, et plein de bonnes nouvelles, donc j'aime toujours donner que les athlètes me recommandent une autre athlète ou un autre athlète à aller voir, sachant qu'on a eu une discussion hyper intéressante et très profonde, je suis très preneur de ta recommandation. Est-ce qu'il y a une athlète que tu aimes particulièrement, à qui tu aimerais donner la parole, soit parce que tu la connais pas assez et que tu aimerais la découvrir plus, soit parce que tu t'entends très bien avec elle ou lui, d'ailleurs j'ai dit une, mais ça peut être à qui est-ce que tu tendrais le micro dans le monde du sport, tiens.
Moi, je trouve que les personnes qui sont souvent à l'origine de grandes carrières sportives ou de grandes choses sont les entraîneurs. Et souvent, ils sont dans l'ombre. Moi, si je devais aujourd'hui tendre le micro, ça serait à mon conjoint, parce qu'il me suit depuis le début, en fait, et que je pense qu'il connaît à peu près tous les aspects du haut niveau professionnel, enfin, du haut niveau en triathlon. Je pense qu'il a un avis assez critique sur beaucoup de choses. Il est assez perspicace. Il aime pas les modes. Et il arrive à prendre un petit peu de chaque nouvelle technologie, chaque évolution, chaque recherche pour en faire le meilleur. Et il fait partie quand même de ces athlètes qui entraînent une fille en tout cas, et je pense que c'est encore différent. Donc moi aujourd'hui c'est lui que j'ai envie de tendre le micro, en plus il est très discret, trop discret, donc il le ferait pas de lui-même, mais voilà, si tu me laisses l'opportunité, ça serait Frédéric Lureau.
Eh bien, rendez-vous pris avec tous les deux en plus. Merci infiniment Manon pour ce moment, parce que tu t'es prêté au jeu et je sais que c'est pas facile. Et en plus, j'ai dit que j'allais te chahuter avec des questions parfois un peu profondes. Et on a essayé de prendre chacun de sujets avec beaucoup de douceur et d'intelligence. Et j'ai passé un excellent moment, du coup.
Partagé.
Comme on dit par chez moi, il n'y a que les montagnes qui ne se recroisent pas. Donc je te dis à très vite.
Ouais, à bientôt, Bart.
Ciao.
Ciao.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao !